Cette pandémie, cette crise du coronavirus risque de laisser des séquelles bien après que le virus soit passé. Ça risque de changer profondément nos habitudes, particulièrement en matière de transport. Et pour en discuter, on va aller joindre à l'instant Jean Dubé. Il est professeur à l'École supérieure d'aménagement du territoire de l'Université Laval. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour.
Donc, M. Dubé, on se pose la question aujourd'hui pour savoir, est-ce que le coronavirus va faire en sorte qu'on va moins voyager au lendemain de cette pandémie-là, selon vous?
Bien, en fait, oui, ça risque de changer des habitudes. Moins voyager, ça reste à voir. Probablement, oui, moins voyager à l'international ou essayer de diminuer justement ce genre de déplacement-là, mais dans le quotidien, en fait, on risque assez rapidement quand même de revenir aux bonnes vieilles habitudes et de retourner travailler et de chercher justement ces contacts physiques et ces contacts sociaux qu'on a perdus pendant le temps de la crise.
J'ai eu quelqu'un la semaine passée qui m'a appelé, il y a une auditrice qui m'a dit « Moi, là, je suis une fille qui prend le transport en commun à tous les jours pour aller travailler, puis là, je vais m'acheter un char quand ça va recommencer. » Elle a eu peur, elle a peur de monter dans un autobus, elle a peur de toucher au poteau d'autobus, elle a peur de croiser trop de monde, d'être assis à côté du monde dans un bus. Est-ce que c'est une des choses qui pourrait aussi changer, c'est-à-dire que le transport en commun soit moins attractif pour bien du monde?
Bien, en fait, probablement, a priori, effectivement, là, une fois qu'on va réouvrir tranquillement, pas vite, et si on n'a pas encore trouvé un vaccin ou un remède, en fait, pour éviter les problèmes et les complications, donc les maladies qui sont liées à ça, ben c'est sûr qu'il va avoir une certaine phobie. Puis si on suggère aux gens avec la santé publique d'avoir une distanciation, j'aime mieux physique que sociale, mais une distanciation, bref, avec les autres, ben c'est sûr que le transport en commun, il offre quand même une proximité beaucoup plus forte que de se déplacer seul dans sa voiture. Donc, à court terme, est-ce que la phobie va être assez élevée pour diminuer la part du transport en commun? Ben, c'est loin d'être fou, en fait, comme hypothèse. Mais ceci dit, la question, ça va être pour combien de temps? Parce que de tout glisser le transport en commun vers la voiture et que là, les transports en commun vont disparaître, ben ça, c'est un petit peu extrême, voilà. Mais je crois pas vraiment à ce scénario-là.
Sans nécessairement disparaître, juste une baisse de 15, 20, 25 de l'achalandage, ça serait dramatique pour nos sociétés de transport.
Ben, oui, effectivement, surtout à court terme, mais je pense pas qu'à long terme, on va avoir cette baisse-là. Donc oui, je pense effectivement, en tout cas, moi, mon hypothèse, mon scénario, c'est qu'à court terme, la part modale du transport en commun va chuter parce qu'il y a effectivement une certaine crainte et une certaine peur qui est liée à la situation actuelle. Mais à moyen et à long terme, ben les gens vont peut-être aussi dire ben si on met tout le monde dans les autos, ben ça va augmenter le trafic. Ouais. Puis là, il y en a peut-être qui vont se dire ben là, finalement, si l'auto, je sais-tu, je trouve ça long un peu, puis je trouve ça compliqué. Je vais peut-être revenir au transport en commun. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est qu'on va avoir un ajustement, donc une espèce de saut pour le court terme, mais je pense pas qu'à moyen terme, en fait,
ça va changer,
cette diminution-là soit permanente.
L'autre truc aussi, beaucoup de gens, on sait qu'il y a beaucoup de gens présentement, même des gens qui nous écoutent, là, qui sont en train de faire du télétravail, là, ils travaillent du confort de leur salon, de leur bureau à maison ou de leur cuisine. Et ces gens-là, il y en a qui détestent ça, mais il y en a qui aiment beaucoup ça. Puis il y a des entreprises qui voient des moyens d'avoir des employés peut-être plus productifs puis qui coûtent moins cher de locaux. Et on a l'impression que le télétravail va connaître une croissance phénoménale en raison de cette crise-là. Ça aussi, ça pourrait avoir un impact sur les transports collectifs, pensez-vous pas?
Bien, ça se peut effectivement, mais ceci dit, moi, l'hypothèse que le télétravail va prendre beaucoup de place, j'y crois pas beaucoup parce que okay. Ça fait des années qu'on sait qu'on peut faire du télétravail et c'est pas ça qui a pris beaucoup de place jusqu'à maintenant. Les gens ont un besoin, en fait, de se rencontrer, d'échanger, d'avoir un contact avec les êtres humains. Je vous dis peut-être pas qu'on va retomber avec des semaines de 5 jours, peut-être qu'il y en a qui vont faire 4 jours, une journée de télétravail. Mais ce revirement de situation puis ce réalignement, j'y crois pas tant que ça. Puis une façon en fait de prouver ce point-là, c'est que je me souviens qu'on avait exactement le même discours quand Internet est arrivé au tournant des années 2000 et on s'est dit ça y est, c'est fantastique, les entreprises peuvent se localiser partout, la distance est morte, on peut voyager, on peut échanger avec tout le monde. Puis en fait, ce qu'on a vu dans la littérature, ce que ça a eu comme impact, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a créé de plus en plus de contacts, oui, mais ça l'a fait augmenter la demande pour les rencontres de type face-à-face. Donc, ça l'a pas fait de diminuer les échanges.
OK. Puis, mais en même temps, là, c'est différent parce que c'est plus théorique. Là, les gens l'ont expérimenté pour vrai. Là. Ils ont commencé à dégager de l'espace dans leur maison. Les entreprises ont investi pour leur fournir l'équipement. Ils leur ont fourni des meilleures connexions. Ils ont des outils. Ils ont fait leurs conférences avec Skype plutôt que de les faire en personne. Je veux dire, un coup que tu t'es familiarisé avec la technologie puis que tu as commencé à dépenser pour installer une nouvelle infrastructure, les possibilités que ça reste là après sont peut-être plus élevées, là.
Ben, c'est pas impossible, mais comme je vous dis, moi, je pense pas que ça va être la grande tendance et que ça va ramasser à peu près tout. Il suffit de regarder, en fait, parlez-en justement avec des gens. Oui, il y en a quelques-uns qui sont bien installés, mais combien rêvent de retourner au boulot, d'avoir un contact avec leurs voisins de travail? Le boulot est beaucoup plus simple quand on est un à côté de l'autre. Puis il y a autre chose aussi qu'il faut faire attention, faut pas généraliser encore une fois, mais malgré tout, il y a quand même des patrons qui vont malgré tout aimer avoir leurs employés à proximité pour jeter un coup d'œil une fois de temps en temps par-dessus l'épaule pour voir qu'est-ce qui se passe effectivement puis qu'est-ce qu'ils font. Donc, je suis pas en train de dire que le télétravail, ça marchera pas puis ça existera plus. Je suis juste en train de dire que de le voir comme la prochaine affaire, en fait, dans le monde du travail, je pense que c'est gros un peu.
Okay. L'autre affaire, je vais vous amener, parce que nous autres à Québec, évidemment, c'est le projet qui a retenu l'attention depuis plusieurs mois, sinon années. C'est le projet du tramway, le plus gros investissement de l'histoire de la ville de Québec, 3,3 milliards. Beaucoup de contestations, beaucoup de débats sur ce projet-là. Est-ce que le coronavirus pourrait donner des arguments supplémentaires à ceux et celles d'entre nous qui s'opposons au projet?
Ben, en fait, je pense que ceux qui s'opposent déjà au projet n'ont pas vraiment besoin d'arguments supplémentaires pour dire « je vais m'opposer encore plus au projet ». Je pense que l'opposition est déjà là et est déjà assez forte. Ceci dit, quand même, il faut se dire que le tramway, ou peu importe ce à quoi on veut réfléchir comme projet de transport en commun, ben à Québec, on n'a pas d'alternative à l'automobile, puis le tramway actuellement, c'est une des belles alternatives qu'on va offrir à l'automobile. Faut pas se surprendre, en fait, qu'il n'y a pas de gens beaucoup qui utilisent le transport en commun, c'est parce qu'il n'est pas compétitif, et il n'est pas compétitif parce qu'on n'a pas d'offre alternative et parce qu'on a toujours favorisé la voiture. Donc, à ce moment-là, faut pas s'étonner qu'on veuille toujours se développer autour de la voiture. Ceci dit, si on regarde à peu près toutes les grandes villes américaines et toutes les villes, de toute façon, où il y a eu des problèmes de congestion, on n'a jamais réglé le problème en bâtissant des autoroutes et en bâtissant des voies routières. Ça a toujours passé par le transport en commun. Donc, je pense qu'à Québec, on est rendu là. Est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que il faut discuter sur... des implantations pour réduire des impacts négatifs, des choses comme ça, oui. Mais je pense, malgré tout, que si on veut développer Québec comme une ville future, il faut le passer par là.
Vous, là, en tant qu'enseignant en aménagement du territoire, le problème qu'on a aussi à Québec, là, contrairement à bien d'autres places où ça se fait, c'est qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale puis il n'y a aucune légitimité démocratique. On a un promoteur du projet, notre maire, qui a été élu en faisant campagne contre le tramway. On a un gouvernement qui a fait le deal avec lui, qui a été balayé de la région de Québec, qui n'a plus un seul élu dans notre région, ni sa rive sud, ni sa rive nord. On a un maire à Lévis qui est contre, puis on a une population qui est de plus en plus opposée. Fait que c'est ça qui est le problème. Le vrai problème du tramway, il est démocratique. C'est un problème. C'est un projet qui n'a pas eu d'acceptabilité sociale. Il n'y a jamais eu de consultation réelle, puis la population n'a jamais eu son mot à dire concrètement.
Ben, écoutez. Moi, je pense pas que c'est exactement ce qui se passe numéro un. Et c'est sûr qu'il y a une forte contestation.
Quand est-ce qu'on a été consulté, M. Dubé?
Ben, quand est-ce qu'on a été consulté? On s'entend que les seuls qui ont voté puis qui ont été clairement contre le transport en commun lors des dernières élections municipales, c'était Québec 21. Est-ce que Québec 21 est rentré au pouvoir?
Régis Labombe se moquait de Mme Guérette parce qu'elle était pour le tramway puis qu'il était contre. Elle a eu 15% des votes.
Oui, mais ceci dit, il faut quand même lui donner quelque chose à M. Labombe, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il a quand même été capable de s'asseoir avec les fonctionnaires puis d'écouter et de voir finalement quelles étaient les options devant lui.
OK, parce qu'il a changé son fusil d'épaule, la population qui a voté pour lui en pensant qu'il était contre, automatiquement est rendue pour.
Quand la population a voté pour lui, quand il s'est présenté, il a proposé un projet de transport en commun qui était là aussi.
Oui, mais c'était, il parlait de SRB à ce moment-là.
Ah, ben, c'était quand même un projet de transport en commun, non?
Oui, mais ça n'avait rien à voir qu'un tramway.
Il est rentré, non?
Monsieur, attendez.
C'est pas du transport en commun.
Monsieur Dubé, un tramway, là, on va y rentrer à la ville, là. On va être pogné dans les travaux pendant 5 ans. Un SRB, c'était pas, il n'y avait pas le même niveau, puis c'était pas le même prix non plus, là. On parle, ça n'a aucun rapport. On n'a jamais voté sur le projet qui est devant nous aujourd'hui, là. C'est un projet qu'on nous rentre dans la gorge de façon antidémocratique, sans acceptabilité sociale. J'espère que vous êtes minimalement conscient de ça, là.
Ben, moi déjà, c'est sûr qu'on va éventrer la ville, c'est sûr que ça va être difficile le temps des travaux. Ça, c'est vrai. T'sais, on peut pas mentir, on peut pas dire que ça arrivera pas. On peut pas dire
que les élections nous ont menti, pas pire, inquiétez-vous pas.
Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, moi j'ai fait je me déplace assez régulièrement à Dijon, justement, où j'ai des collègues puis où je vais travailler une fois de temps en temps, et ils ont fait le choix de basculer au tramway. Ils ont fait le choix de réaménager des places publiques. Évidemment, peut-être que l'opinion publique n'était pas toujours favorable, mais ceci dit, la ville, qu'est-ce que ça donne 5 ans après? Ça a changé complètement le visage de la ville. Si les gens sont très opposés, je peux comprendre par ailleurs, hein, je dis pas que ces gens-là, ils n'ont pas d'affaires à être opposés. Je comprends qu'ils peuvent être opposés. L'être humain, à la base, c'est pas quelqu'un qui est toujours très ouvert au changement. Et là, on propose une alternative. Est-ce que c'est normal que cette alternative-là, qui est différente, ne soit pas appuyée dans la population? Moi, je pense pas que c'est anormal. Je pense tout simplement qu'on le fait comme ça parce qu'on peut pas non plus se dire...
Il faut que la population soit d'accord. Là, on peut pas demander aux contribuables de payer puis pas y demander son opinion. Voyons donc. On vit en démocratie, là, M. Dubé. Là. Si la population ne veut pas, on peut pas nous le rentrer dans la gorge parce qu'il y a un mégalomane qui a décidé qu'il changeait son fusil d'épaule au lendemain des élections.
Mais c'est quoi dans ce cas-là? C'est quoi dans ce cas-là? C'est on va à chaque fois au plus fort la poche?
Non, on vote, monsieur. On appelle ça démocratie. On vote. Puis le parti qui a plus de votes, c'est lui qui gagne. Puis c'est le projet qui propose qui gagne.
Cette démocratie-là, elle est bonne juste quand ça passe de notre côté, c'est
non? Monsieur, non, elle est bonne quand le gars que t'as élu, il respecte sa parole, Monsieur Dubé. Le jour où il fait un flip-flop,
il a dit qu'il a été élu pour du transport en commun. C'est pas exactement le tramway, mais il a dit qu'il voulait du transport.
Je m'attendais mieux d'un prof d'université. Je pensais qu'au niveau de la rigueur intellectuelle, vous alliez lever le débat, mais là, vous êtes en train de dire que le politicien, au lendemain des élections, il peut dire le contraire de ce qu'il a dit en campagne.
Moi,
vous le suivez.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez parler à un politologue pour lui parler des questions de démocratie, appelez un politologue. Je suis pas politologue.
Non, mais vous défendez le projet de la démocratie pour un projet de 3,3 milliards du plus gros investissement de l'histoire de la ville de Québec. Je trouve ça ordinaire.
C'est pas ça du tout que j'ai dit et vous le savez très bien. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez parler de démocratie, moi, je suis un économiste. Appelez quelqu'un qui travaille en politique et qui est capable de vous parler de démocratie. Moi, je vous parlerai pas de démocratie, c'est pas ma tasse de thé, puis l'acceptabilité sociale, c'est pas ma tasse de thé, non.
Oui, mais vous êtes conscient que ça n'en prend. En tant qu'économiste, vous ne pouvez pas aller de l'avant avec des projets s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale.
Les économistes ont été de l'avant avec plusieurs projets qui n'avaient pas d'acceptabilité sociale par ailleurs. Mais ceci dit, je veux dire, je peux pas aller sur ce terrain-là que je connais pas beaucoup et honnêtement, j'ouvrirais une porte à la critique assez grande. Je ne suis pas politologue, je vais pas me mêler de ces questions-là.
Ok, mais là,
si vous voulez parler d'impact économique potentiel, de retombées, ça va me faire plaisir. Mais cette histoire-là, ben je peux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas ma tasse de thé.
Mais en même temps, là, vous nous dites que le tramway, là, il y a des fonctionnaires qui ont convaincu le maire Régis Labombe. Pourquoi, là, vous êtes un spécialiste des transports, là. Pourquoi pas le métro?
Ben, c'est une bonne question. Pourquoi pas le métro? En fait, j'imagine que, moi, de ce que je comprends du débat, parce que j'ai pas été autour de la table et j'ai pas vu effectivement tout ce qui s'est fait et ce sur quoi ça a été planché.
Nous autres non plus.
Mais j'imagine, en fait, que ce qui s'est fait, l'arbitrage, c'est de se dire, ben, écoutez, avec le même montant, on peut courir beaucoup plus large avec un tramway qu'avec un métro, beaucoup plus loin. Et aussi, l'argument qui est en faveur d'un tramway et qui n'est pas en faveur d'un métro, c'est le fait qu'avec un tramway, on peut réaménager des places publiques et de redonner ces places publiques-là aux gens, de les rendre piétonnes, de les rendre agréables à fréquenter. Et avec le métro, ben, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on sort une bouche de métro. Donc, on n'a pas beaucoup d'influence sur le milieu bâti, mais c'est sûr qu'on accélère beaucoup les déplacements. Puis, il y a d'autres avantages à avoir un métro. Donc, pourquoi est-ce qu'on a opté pour un tram plutôt qu'un métro? Ben, j'imagine que ce qu'on voulait faire, c'était en bonne partie essayer de redonner la ville, de retravailler la ville et de la réinvestir et de faire en sorte que les gens se la réapproprient aussi.
Nos petits commerçants crèvent de faim, là, présentement. Ça fait un mois qu'ils sont fermés puis ça va pas se relever en 24 heures leur affaire. Là, il y en a un paquet, on estime qu'il y en a entre 1 sur 4 puis 1 sur 3 qui vont faire faillite. Il y en a qui sont sur le long du parcours, on leur annonce 3, 4, 5 ans de travaux où ça va être compliqué pour leurs clients de venir les voir. Est-ce que vous réalisez que ça va pas revitaliser, mais ça risque de complètement anéantir des quartiers au complet, cette affaire-là, là, ces chantiers-là qui finiront
non,
plus.
Non,
un métro ferait le contraire. Là. Les travaux dérangeraient non, pas non. Ces commerces-là pendant la construction. Là.
Certes, mais en fait, c'est sûr qu'il va y avoir un coup dur. Puis par ailleurs, je pense que c'est ce que la ville a fait aussi. Ils ont... Comment?
Il y en a déjà un présentement. Là. Ils n'en ont pas besoin de deux, oui, un en arrière de l'autre.
Non, mais ça va être, c'est sûr que pour ceux qui sont à proximité, ça va être un petit peu plus difficile. Mais la ville, de mémoire, a mis sur pied un programme pour essayer de les aider un petit peu dans ce temps-là. Ceci dit, c'est comme partout. Oui, il va y avoir un choc, il va y avoir une construction, mais l'effet d'après-construction habituellement surpasse la situation devant choc. Bon, est-ce qu'on doit faire en sorte, et là, je vous repose la question, est-ce qu'on doit faire en sorte de sauver tous les commerçants qui sont là? Est-ce qu'on doit aider ceux qui sont plus aptes à survivre après? Est-ce que on peut se poser la question? Il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent être sur la table, mais il y a toutes sortes de façons d'aider ces entreprises-là. Ceci dit, est-ce qu'il y en a qui ne vont pas survivre? La réponse, c'est oui. Et est-ce que c'est uniquement lié au tramway? La réponse, c'est probablement non.
Professeur Jean Dubé à l'École supérieure d'aménagement du territoire de l'Université Laval, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci beaucoup.